Podcast de l'Avent, une lecture balsacienne pour patienter jusqu'à Noël. Le bal de Sceaux, par Honoré de Balzac, Paris, décembre 1829. À Henri de Balzac, son frère Honoré. Extrait 22 sur 24.
Au bout d'un mois, les soins de ses parents, ceux du médecin, la rendirent aux vœux de sa famille. Chacun espéra que cette leçon serait assez forte pour dompter le caractère d'Émilie qui reprit insensiblement ses anciennes habitudes et s'élança de nouveau dans le monde. Elle prétendit qu'il n'y avait pas de honte à se tromper. Si, comme son père, elle avait quelque influence à la chambre, disait-elle, elle provoquerait une loi pour obtenir que les commerçants, surtout les marchands de calicot, fussent marqués au front comme les moutons du Berry jusqu'à la troisième génération. Elle voulait que les nobles eussent seuls le droit de porter ces anciens habits français qui allaient si bien aux courtisans de Louis XV. À l'entendre, peut-être était-ce un malheur pour la monarchie qu'il n'y eût aucune différence visible entre un marchand et un pair de France. Mille autres plaisanteries, faciles à deviner, se succédaient rapidement quand un incident imprévu la mettait sur ce sujet. Mais ceux qui aimaient Émilie remarquèrent, à travers ses railleries, une teinte de mélancolie. Évidemment, Maximilien Longueville régnait toujours au fond de ce cœur inexplicable. Parfois, elle devenait douce, comme pendant la saison fugitive qui vit naître son amour, et parfois aussi, elle se montrait plus que jamais insupportable. Chacun excusa les inégalités d'une humeur qui prenait sa source dans une souffrance à la fois secrète et connue. Le comte de Kergarouët obtint un peu d'empire sur elle grâce à un surcroît de prodigalité, genre de consolation qui manque rarement son effet sur les jeunes parisiennes. La première fois que Mademoiselle de Fontaine alla au bal, ce fut chez l'ambassadeur de Naples. Au moment où elle se plaça dans le plus brillant des quadrilles, elle aperçut à quelques pas d'elle Longueville qui fit un léger signe de tête à son danseur. « Ce jeune homme est un de vos amis ?» demanda-t-elle à son cavalier d'un air de dédain. « Rien que mon frère !» répondit-il. Émilie ne put s'empêcher de tressaillir. « Ah !» reprit-il d'un ton d'enthousiasme. « C'est bien la plus belle âme qui soit au monde !»« Savez-vous mon nom ?» lui demanda Émilie en l'interrompant avec vivacité. « Non, mademoiselle !» C'est un crime, je l'avoue, de ne pas avoir retenu un nom qui est sur toutes les lèvres. Je devrais dire dans tous les cœurs, mais j'ai une excuse valable. J'arrive d'Allemagne. Mon ambassadeur, qui est à Paris en congé, m'a envoyé ce soir ici pour servir de chaperon à son aimable femme, que vous pouvez voir là-bas, dans un coin.
Un vrai masque tragique, dit Émilie après avoir examiné l'ambassadrice.
Voilà cependant sa figure de bal, repartit en riant le jeune homme. Il faudra bien que je la fasse danser. Aussi ai-je voulu avoir une compensation.
Mademoiselle de Fontaine s'inclina.
J'ai été bien surpris, dit le babillard secrétaire d'ambassade en continuant, de trouver mon frère ici. En arrivant de Vienne, j'ai appris que le pauvre garçon était malade et au lit. Je comptais bien le voir avant d'aller au bal, mais la politique ne nous laisse pas toujours le loisir d'avoir des affections de famille. La padrona de la casa ne m'a pas permis de monter chez mon pauvre Maximilien.
Monsieur, votre frère n'est pas comme vous dans la diplomatie ? Dit Émilie.
« Non, dit le secrétaire en soupirant. Le pauvre garçon s'est sacrifié pour moi. Lui et ma sœur Clara ont renoncé à la fortune de mon père afin qu'il pût réunir sur ma tête un majorat. Mon père rêve la pairie comme tous ceux qui votent pour le ministère. Il a la promesse d'être nommé, ajouta-t-il à voix basse, après avoir réuni quelques capitaux. Mon frère s'est alors associé à une maison de banque, et je sais qu'il vient de faire avec le Brésil une spéculation qui peut le rendre millionnaire. Vous me voyez tout joyeux d'avoir contribué par mes relations diplomatiques au succès. J'attends même avec impatience une dépêche de la légation brésilienne qui sera de nature à lui dérider le front. Comment le trouvez-vous ?
Mais la figure de monsieur votre frère ne me semble pas être celle d'un homme occupé d'argent. Le jeune diplomate scruta par un seul regard la figure en apparence calme de la danseuse.
« Comment ? » dit-il en souriant. « Les demoiselles devinent donc aussi les pensées d'amour à travers les fronts muets ?
Monsieur, votre frère est amoureux ? » demanda-t-elle en laissant échapper un geste de curiosité.
« Oui, ma sœur Clara, pour laquelle il a des soins maternels, m'a écrit qu'il s'était amouraché cet été d'une fort jolie personne. Mais depuis, je n'ai pas eu de nouvelles de ses amours. Croiriez-vous que le pauvre garçon se levait à 5 heures du matin et allait expédier ses affaires afin de pouvoir se trouver à 4 heures à la campagne de la belle? Aussi a-t-il abîmé un charmant cheval de race que je lui avais envoyé. Pardonnez-moi mon babil, mademoiselle, j'arrive d'Allemagne. Depuis un an, je n'ai pas entendu parler correctement le français. Je suis sevré de visage français et rassasié d'allemand, si bien que dans ma rage patriotique, je parlerai, je crois, aux chimères d'un candélabre parisien. Puis, si je cause avec un abandon peu convenable chez un diplomate, la faute en est à vous, mademoiselle. N'est-ce pas vous qui m'avez montré mon frère ? Quand il est question de lui, je suis intarissable. Je voudrais pouvoir dire à la terre entière combien il est bon et généreux. Il ne s'agissait rien de moins que de 100 000 livres de rente que rapporte la terre de Longueville.